Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Stéphane Bern. Je suis ravi de vous retrouver pour 2 heures d'histoire décomplexée avec mon complice, un garçon lui-même un peu trop décomplexé. Bonjour Mathieu Noël.
C'est pas faux. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous connaissez le principe maintenant d'Historiquement Vôtre. Chaque après-midi, on réunit dans ce studio trois personnages de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun. Parfois, ce point commun est très tiré par les cheveux, mais parfois, il est simplement un peu tiré par les cheveux. Aujourd'hui, Stéphane, on s'intéresse à ces héros magnifiques. Ces modèles de courage au tempérament d'acier qui, confrontés à une situation périlleuse, ont pensé très fort à la réaction stoïque de Socrate lorsqu'on lui a tendu la ciguë et qui se sont exclamés
« Tirez-vous, on est foutu !»
Eh oui Mathieu, aujourd'hui courage, fuyons, c'est le thème de notre émission. Avec Louis XVI et sa célèbre fuite à Varennes, la reine Marie de Médicis qui a tenté de fuir le château de Blois où elle était assignée à résidence par son propre fils Louis XIII. Quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'un déserteur plus proche de nous.
Il est passé du statut de gloire nationale à celui de loser en exil. Je vous parle aujourd'hui de l'ancien roi d'Espagne, certainement un pote à vous Stéphane, Juan Carlos. Alors non, pour échapper à de sales affaires de fraude fiscale, il s'est taillé aux Émirats Arabes Unis. Je vous raconte ça, dussé-je heurter la sensibilité de Stéphane qui ne supporte pas qu'on touche au bourbon. Enfin, sauf l'alcool, évidemment.
Oui, alors Mathieu, au sommaire également, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah bonjour les garçons, aujourd'hui bonjour, avec madame. Votre thématique, j'ai failli évoquer, vous savez, Soubise qui prend une pâtée à la bataille de Rosbach et alors on raconte qu'il a cédé à son inclination pour la retraite, c'est joliment dit, pour quelqu'un qui fout le camp. Et puis finalement, comme j'ai l'esprit un peu tordu, j'ai pensé
oui,
que
ça, on le savait.
À l'expression « courir
à
toutes jambes ». Et du coup, je vais vous parler des jambes de Catherine de Médicis.
Ah, on revient au cul.
Qui avait de très
bien,
jolies jambes.
C'est bon, Stéphane.
Oui, c'est bon, oui. Ah, j'ai eu peur. J'ai pensé qu'on allait s'éloigner des dessous de l'histoire. Et puis avec nous également, David Castello-Lopez.
Tout à fait.
Bonjour, David.
Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler des origines du Monopoly.
Voilà, ce jeu
auquel... Vous êtes meilleur au Monopoly qu'au Rubik's Cube.
Je suis un petit peu meilleur, c'est un peu plus facile aussi, donc le Monopoly.
Attendez, c'est un art le Monopoly.
C'est vrai, mais voilà.
Olivier Pouls est avec nous aussi pour nous raconter, lui, l'histoire d'une recette et nous la donner ensuite. Aujourd'hui, Olivier.
Eh bien, les amis, est-ce que vous aimez les pieds de porc?
Quel rapport avec le thème des fouillards de l'histoire?
Parce que Louis XVI,
voilà.
Saint-Menehould, il a demandé des pieds de porc et c'est à cause de ça, dit-on, qu'il aurait été retardé.
Mais attendez, info ou un toc? Légende ou...
On va essayer de dépatouiller tout ça, mais en tout cas, je vous donnerai la recette des authentiques pieds de porc à la Saint-Menehould, recette qui, effectivement, était le péché mignon, paraît-il, de Louis XVI.
Est-ce que c'est bon, les pieds de porc? Est-ce que vous aimez
j'adore ça.
Vous aimez ça?
C'est comme les oreilles de cochon, c'est délicieux. Vous m'en avez piqué dans mon assiette l'autre jour.
Ça, c'est vrai, chers auditeurs, il faut le dire. Et Stéphane, l'autre jour, on s'est fait un déjeuner sans vous. Vous n'étiez pas disponible à cause de votre emploi du temps de ministre. Mais on a goûté, effectivement, des oreilles de cochon. Alors, j'avais juré de ne pas goûter. Puis, en fait, c'est délicieux. Comme quoi, quand on suit Olivier Pouls dans ses déviances, dans ses folies, on est parfois surpris.
La prochaine fois, ce sera des pieds de porc.
Parfait. Alors, il y aura aussi ce moment savoureux de l'émission pour nous, éprouvant pour vous, Stéphane, Burn to be Alive, le quiz qui permet à la France de vérifier vos réelles connaissances historiques. La France qui tombe souvent de haut, il faut bien le dire, ça sera vers 5h moins le quart. Mais tout de suite, découvrons le destin d'un homme qui a passé sa vie à hésiter. Il n'arrivait pas à trancher. Les révolutionnaires, eux, y arriveront pour lui. Voici le Louis XVI de la fuite à Varennes par Stéphane Bern.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Sur cette fuite du roi Louis XVI et de sa famille à Varennes, tout ou presque a été dit. L'évasion en pleine nuit, les costumes, l'arrestation, le retour sur les huées à Paris. Mais ces 36 heures de cavale ont également fait l'objet de nombreuses affabulations. Revivons ensemble cette folle échappée qui a changé à jamais l'histoire de France. Pourquoi Louis XVI décide-t-il de quitter le palais des Tuileries en pleine nuit le 20 juin 1791 ?
Parce qu'il est
assurément. Non, le roi n'a pas pris cette décision sur un coup de tête. À cette époque, elle est encore bien vissée sur le tronc. Non, mais le monarque français a signé à résidence au palais des Tuileries avec sa famille depuis octobre 1789, ne supporte plus de se voir chaque jour un peu plus dépossédé du pouvoir. Création de l'Assemblée nationale, prise de la Bastille, suppression des privilèges, les députés lui ont refusé surtout son droit de veto absolu. Mais surtout, Le 18 avril 1791, Louis XVI considère qu'un affront vient de lui être fait, alors qu'il souhaite passer les fêtes de Pâques dans son château de Saint-Cloud. Une foule immense s'y oppose et empêche le carrosse de sortir. Pour Louis XVI, c'en est trop. Il faut quitter Paris, qui n'est plus une ville sûre pour lui et ses proches, et surtout, il s'y sent prisonnier. Mais quitter la capitale quand on est le roi de France n'est pas chose aisée. Cela fait plusieurs mois que la reine Marie-Antoinette et son favori, le comte suédois Axel de Fersen, échafaudent le plan. L'objectif de la reine est que la famille rejoigne les Pays-Bas autrichiens dont l'empereur n'est autre que son frère, Léopold II. Louis XVI, fort de ce soutien, reviendrait éteindre cette révolution et rétablir son pouvoir. Mais le roi, comme toujours, est d'un avis moins tranché. Il ne connaît pas les plans de la reine. Il veut avant tout quitter Paris et les députés jacobins surexcités et sanguinaires. Son point de chute, lui, c'est Montmédy, à 240 km à l'est. Une place forte où il sera en sécurité et pourra réfléchir à son avenir à la tête du royaume. En juin 1791, le stratagème est finalisé. Et seuls quelques proches sont informés de ce projet fou. Car le plus dangereux dans cette évasion, c'est pas de traverser la France, mais bien de parvenir à s'échapper du palais des Tuileries. Ici, plus de 2000 personnes gravitent chaque jour, domestiques, personnel administratif et surtout les gardes nationaux. Sous l'autorité du marquis de Lafayette, ils sont chargés de surveiller les moindres faits et gestes des membres de la famille royale. Mais le roi, la reine et le comte de Fersen ont pensé à tout. Ils ont repéré les passages secrets, les couloirs dérobés derrière les boiseries pour échapper à leur geôlier. Chaque fugitif endossera un costume pour ne pas être connu. Ainsi, le soir du 20 juin 1791, la gouvernante et les deux enfants royaux s'engouffrent dans un fiacre dont le cocher n'est autre qu'Axel de Fersen, le fameux. Puis, la sœur du roi, Madame Élisabeth, les rejoint. Une heure plus tard, Louis XVI s'infiltre à son tour dans la voiture. Il a été retenu par Bailly et Lafayette. La dernière fugitive, la reine, arrive enfin, essoufflée après s'être perdue dans les couloirs. Le convoi accuse déjà une heure de retard sur le programme, mais ses passagers ont réussi l'impensable, échapper à la surveillance des gardes et s'évader de leur prison dorée. Pour le moment, les fuyards sont loin d'être en sécurité. Il leur faut sortir de Paris au plus vite. À la porte Saint-Martin, avec deux heures de retard, ils passent de leur fiacre à une berline de luxe sans même poser le pied à terre. La voiture, qui a coûté la bagatelle de 6000 livres, une fortune qu'aurait payée Axel de Fersen, est extrêmement luxueuse. Intérieur en cuir et taffetas, compartiment à bagages, service à pique-nique, casier à bouteille, pot de chambre sous une housse en cuir, rien ne manque pour le voyage.
Rien que ça, c'est une faute professionnelle, Stéphane. Il fallait une petite carriole, quelque chose de discret.
C'est une bêtise de la part de Fersen, mais il veut toujours en faire trop, celui-là. Abondi, Axel de Fersen, comme prévu, les quitte. Ils doivent le retrouver à leur destination final, Montmédy. À Clay, le cortège retrouve deux gouvernantes, parties quelques heures plus tôt. Enfin éloignées de Paris, les 11 passagers répartis dans deux voitures se détendent un peu. Les femmes relèvent leurs voilettes de leurs chapeaux, le roi consulte ses cartes géographiques, on pique-nique sans fourchette ni assiette, du veau froid, des quignons, du vin. On croirait presque à une escapade de famille le temps d'un week-end, voyez. Mais le temps presse. Il est 7h et aux Tuileries, l'évasion est découverte. Le marquis de Lafayette est hors de lui. Il signe l'ordre de retrouver le roi et d'arrêter tout membre de la famille royale voulant sortir du royaume. 10 écuyers sont envoyés à leur recherche. La course poursuite s'engage. Le cortège progresse lentement. Il parcourt en moyenne 11 km par heure. Et la malchance s'acharne. Vers Étoges, une roue se casse. La réparer prend 45 minutes. Ils n'ont qu'un objectif. Arriver au plus vite à Pont-de-Sommevel. C'est ici qu'ils doivent retrouver Monsieur Choiseul, colonel du régiment de 175 dragons. Ces militaires à cheval qui combattent à pied et sont censés escorter le roi en cas de menace.
Mon petit doigt me dit que ce Monsieur Choiseul et ses dragons vont faire faux bond à nos fugitifs.
Alors, pas de désertion, Mathieu, mais un léger quiproquo sur le timing, vous allez voir.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Courage, fuyons, c'est le thème de notre émission. Stéphane nous raconte l'invraisemblable fuite en pleine nuit du roi Louis XVI et de sa famille en direction de Montmédy, à la frontière de l'actuelle Belgique. Alors à Paris, leur évasion a été constatée. Des écuyers sont partis au galop pour tenter de mettre la main sur le cortège.
Bon, et du côté du roi et de sa famille, ils commencent à avoir de sérieux doutes sur la réussite de leur évasion. Une fois arrivé à Pont-de-Sommevel, le cortège ne rencontre ni Monsieur de Choiseul, ni les soldats tant espérés. Choiseul, ne voyant pas la berline, a fait disperser ses troupes. Il faut dire que le roi et sa famille accusent un retard de 4 heures sur le programme. Pire, il a demandé à Léonard, le coiffeur officiel de Marie-Antoinette, dont la reine avait exigé la présence dans cette évasion, d'aller prévenir les détachements suivants. Tous vont obtempérer et ne pas attendre le convoi royal. Plus leur voyage avance, plus les fugitifs sont pris d'angoisse. Ils étaient, selon la gouvernante, Madame de Tourzel, je la cite, en proie à une violente agitation. À Saint-Menehould, c'est le tournant de cette incroyable évasion. La légende raconte que c'est dans cette ville que le roi Louis XVI a tenu à s'arrêter pour déguster l'un de ses plats favoris, spécialité de la région, des pieds de porc panés,
oui,
cuits avec du vin blanc et des oignons. Cette gourmandise royale aurait participé, là encore, au retard pris par le cortège. Mais l'histoire raconte surtout que le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, 28 ans, aurait reconnu le roi grâce ou un assignat, mais ça, j'en doute, c'est plutôt un louis, peut-être une pièce, bref. Ces nouveaux billets, mis en circulation, où figurait la tête gravée de Louis XVI. Quoi qu'il en soit, il comprend que ce cortège ne transporte pas des voyageurs comme les autres et prévient le conseil municipal. Les conseillers lui demandent de partir à la poursuite du potentiel roi déserteur. Le soir même, alors que le cortège entre dans la ville de Varennes, Drouet et quelques hommes arrêtent le cortège. Terminus, tout le monde descend. Ils demandent aux passagers leur passeport. Les papiers semblent en règle. Le roi avait fait en sorte de délivrer de faux documents au nom d'une baronne allemande, Madame de Korff, en partance pour Francfort. Drouet, pour gagner du temps, argue que les documents ne sont pas valables, car ils ne contiennent pas la signature du président de l'Assemblée. En attendant de les vérifier, les passagers sont emmenés chez le procureur de la commune, et épicier au passage, Monsieur Sauce, ça ne s'invente pas. Pour confondre le roi, le notable a une idée. Il va chercher le juge d'Estée qui s'est marié à Versailles et connaît donc bien le visage de Louis XVI. En entrant dans la chambre où la famille royale est confinée, ce dernier tombe à genoux et s'écrie « Ah, sire !» Louis XVI ne peut plus mentir. Il dévoile sa vraie identité, mais jure qu'il n'est pas en fuite, il veut simplement rejoindre Montmédy, loin de l'agressivité parisienne. Les conseillers de la ville, convaincus, sont prêts à l'escorter dès le lendemain jusqu'à cette place forte. Mais entre-temps, Bayon, officier de la garde nationale, arrive et montre le décret de Lafayette. Louis XVI a échoué et prononce cette phrase restée dans l'histoire. « Il n'y a plus de roi en France. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de la fuite à Varennes de Louis XVI, nous sommes en ligne avec l'historienne Aurore Chéry qui publie l'intrigant Nouvelle Révélation sur Louis XVI aux éditions Flammarion.
Bonjour Aurore Chéry.
Bonjour.
Vous annoncez dans votre livre de Nouvelle Révélation. En quelques mots, qu'est-ce qu'on découvre sur Louis XVI qu'on ne connaissait pas déjà ?
Je dirais presque tout, puisque en fait il est à redécouvrir de fond en comble. Il faut revenir aux archives, on en a une image complètement fausse de Louis XVI. En fait, après de très nombreuses années de recherche, je suis arrivée à la conclusion que d'une part, il n'aimait pas Marie-Antoinette, qu'il subissait l'alliance autrichienne, et surtout, c'est lui qui a voulu financer et accompagner la Révolution française. C'était littéralement un révolutionnaire coincé dans un corps de roi. En tant qu'homme, il croyait en l'égalité fondamentale des êtres humains et il détestait le rôle qu'on lui demandait de jouer en tant que roi, c'est-à-dire qu'il se voyait comme un pantin de l'aristocratie versaillaise. Et donc, pour mettre fin à ça, la seule solution qu'il a trouvée, c'était de provoquer la Révolution.
Vous ne cherchez donc pas à réhabiliter Louis XVI, mais plutôt à le comprendre. Sur son départ précipité des Tuileries dont on vient de parler, qu'est-ce que ça dit de Louis XVI à ce moment précis ? Qu'il est courageux ou précisément l'inverse ?
Alors oui, il est courageux puisque en fait à ce moment-là, il a un plan précis qui est d'aller de faire croire qu'il a été enlevé, mais pour aller à Metz et en fait de là propager la révolution dans les États allemands avec des complicités, montrer qu'il était révolutionnaire et surtout arriver à son objectif avec la révolution, c'est-à-dire fonder un empire de petites républiques.
Mais au fond, le roi et la reine n'avaient pas du tout la même ambition en partant dans cette fuite à Varennes. Le roi, alors, où voulait se mettre en sécurité auprès des troupes restées fidèles à Montmédy, la reine, elle voulait carrément aller demander du secours à son frère, l'empereur d'Autriche.
Bah alors oui, en effet, ils n'ont pas du tout la même ambition, c'est-à-dire que Louis XVI, oui, voulait rejoindre des troupes, mais des troupes, en fait, révolutionnaires, qui allaient l'aider à propager la révolution, alors que Marie-Antoinette voulait réellement enlever le roi, le faire enfermer dans une citadelle, probablement Montmédy, pour le destituer en disant qu'il était fou. Ça lui aurait permis de devenir régente et de mettre fin à la révolution pour aller vers la monarchie constitutionnelle, en fait. Alors que Louis XVI, lui, voulait radicaliser la révolution en allant à Metz.
Mais alors, dites donc, c'est pas du tout l'histoire qu'on nous apprend à l'école. Vous avez trouvé des documents inédits pour affirmer une telle volonté de la reine Marie-Antoinette.
Complètement, j'ai retravaillé complètement Louis XVI en revenant aux archives, en essayant de comprendre quelle était sa volonté depuis le départ, et on se rend bien compte qu'il a un problème depuis le départ avec l'alliance autrichienne, qu'il n'aime pas Marie-Antoinette et que c'est bien pour ça qu'il ne lui fait pas d'enfant pendant si longtemps en fait. Louis XVI est dès le départ quelqu'un qui a un problème avec son rôle en tant que roi.
Enfin, il avait un autre problème aussi un peu technique avec...
Mais non, c'est lui qui ne veut pas lui faire d'enfant en fait. Donc c'est lui qui dit qu'il est impuissant pour ne pas redonner en fait de la puissance aux Habsbourg.
Ça contredit votre théorie, Stéphane.
Bah, écoutez, moi je ne suis pas médecin, je n'étais pas là, c'est pas moi qui ai opéré. Je sais simplement que Joseph II est arrivé à la cour de Versailles, a dit à son beau-frère, bon alors comment ça marche? Il lui a expliqué qu'il y avait un frein, qu'il fallait peut-être opérer. On lui a dénoué l'aiguillette et puis voilà, il a pu faire des enfants à la reine.
Mais c'est Joseph II qui le raconte.
Moi je croyais que le roi adorait la reine. C'est le seul roi qui était fidèle à son épouse.
Et justement, ça devrait poser question. On a une représentation de cette période qui est vraiment en contraste avec toutes les autres périodes de l'histoire. On a des neuneux et des moutons, alors qu'en fait, Louis XVI s'inscrit complètement dans la continuité de ce qui se passait avant, au XVIe, au XVIIe siècle. Il est un roi qui suit aussi, qui veut être un roi de guerre et qui ne peut pas l'être parce qu'il a une aristocratie qui ne peut pas combattre. Et c'est son gros problème.
Courage, fuyons, c'est un peu le cri de ralliement de tous nos personnages. Aujourd'hui, on parle de Louis XVI avec Aurore Chéry dans votre livre qui s'appelle L'Intrigant. Vous écrivez « La sortie des Tuileries, la nuit du 20 juin, a sans doute été bien plus rocambolesque et digne d'un opéra comique que les récits ultérieurs ne l'ont laissé penser. » En quoi elle a été rocambolesque? C'est quoi le plus drôle dans cette fuite pour vous?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans le théâtre de boulevard. C'est-à-dire que Louis XVI, il veut faire croire à un enlèvement, et un enlèvement pas par n'importe qui, par l'amant de sa femme, Fersen. Et donc, c'est pour ça que Fersen fait le cocher au départ des Tuileries aussi. Puis on a cette caricature qui s'appelle l'égout royal, qui montre la famille royale qui passe par les égouts sous les Tuileries pour pouvoir rejoindre la berline. Et en fait, c'était Guillaumeau, un parent de Fersen, qui avait la responsabilité du sous-sol de Paris. Donc ça visait à incriminer Fersen aussi.
Ce que je ne comprends pas, c'est que Fersen, il joue un rôle central. On est d'accord, on ne va pas avoir une autre révélation. Vous nous avez dit que Louis XVI n'avait probablement pas de phimosis. Est-ce que vous pouvez rassurer Stéphane, Fersen était bien l'amant de Marie-Antoinette?
Non, l'ami de cœur, disons.
Oui. Enfin...
Alors non, oui, c'était un amant pour des raisons politiques, en fait. L'objectif, c'était pour Marie-Antoinette d'avoir un enfant que Louis XVI ne voulait pas lui faire. Donc, c'est un arrangement entre eux. Et à ce moment-là, en fait, Fersen, qui change souvent d'intérêt, en fait, s'est allié au comte de Provence. Il joue avec le comte de Provence contre Marie-Antoinette.
Oh là 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 là.
Stéphane, respirez fort.
Et si je m'attendais à ça cet après-midi. Bon, en tout cas, on sait à peu près tout maintenant de la relation entre Fersen et Marie-Antoinette. Evelyne Levert a ressorti les dernières lettres. On sait à peu près tout. À ce moment-là, c'est quand même lui qui organise à la demande de la reine la fuite à Varennes, on est d'accord?
Alors, il fait croire à Marie-Antoinette qu'il travaille pour elle, en effet, mais en réalité, il travaille pour le comte de Provence, qui reprend le plan de Marie-Antoinette à son compte, mais pour prendre sa place, en fait. Si son intérêt de s'allier avec Fersen, c'est d'avoir Fersen qui va dire « Mais non, mais Marie-Antoinette ne peut pas devenir régente, elle a commis l'adultère, je le sais, puisque c'était avec moi. » Donc, c'est pour ça que Provence a vraiment intérêt à se mettre Fersen de son côté.
Donc en fait, c'est le véritable ennemi, le vrai traître à Louis XVI, c'est son frère cadet, le comte de Provence, qui deviendra le roi Louis XVIII.
Exactement. À ce moment-là, c'est une grande surprise pour Louis XVI. D'ailleurs, il aura beaucoup de mal à accepter cette trahison par la suite, parce que Provence était son principal confident. Il connaissait toute sa politique secrète. Et surtout, Provence avait réussi à le piéger, en fait, en faisant écrire à Louis XVI cette déclaration du roi à sa sortie de Paris, qui est un texte contre-révolutionnaire, un texte dans lequel le roi se plaint assez ridiculement de la Révolution, mais donc qui est de la main de Louis XVI. Et en fait, au départ, c'était manifestement un texte qui était destiné à être imprimé comme venant des Autrichiens. Seulement, Provence a trouvé un moyen de le faire écrire par son frère. C'était lui qui devait l'écrire au départ. Et ensuite, au lieu de le faire imprimer, bien, il l'a gardé et puis il l'a confié à la porte qu'il a présentée à l'Assemblée une fois que le départ de la famille royale a été connu. Donc Louis XVI était piégé, il ne pouvait plus faire défendre la thèse de l'enlèvement.
Comme j'ai l'impression, Aurore Chéri, que vous étiez littéralement aux Tuileries cette nuit-là, est-ce qu'on sait qui est la première personne à avoir découvert la fuite, l'évasion de la famille royale ?
C'est difficile à dire parce que, comme il y avait ces trois plans, en fait, chaque protagoniste a prévenu des personnes différentes. Ce qu'on sait, c'est que parmi les alliés de Louis XVI, ils ont su assez tôt que ça ne se passait pas comme prévu. Parmi eux, donc, il y avait le marquis de Bouillet, il y avait aussi Lafayette, également Palois, hein, le révolutionnaire, le démolisseur de la Bastille, qui était en fait chargé de veiller au bon déroulement de l'opération. Palois était un agent de Louis XVI, en fait. Et c'est lui qui, dès qu'il comprend et dès qu'il apprend que ça tourne mal pour Louis XVI, envoie quelqu'un tout de suite dans la bonne direction pour essayer de faire arrêter le roi, puisque l'objectif pour Louis XVI, c'est de ne pas arriver à destination, parce que sinon, il est piégé.
Il y a cette histoire de Drouet, le maître de poste, parce que c'est rentré dans la légende. Donc il a reconnu à Saint-Menehould, il a reconnu le roi. On dit un assignat, d'autres disent une pièce de monnaie, puisqu'il y avait le profil gravé évidemment du roi. Tout ça, c'est de la légende. C'est un agent double, Drouet. C'est qui ?
Mais alors Drouet, c'est un ancien militaire. On ne sait pas trop d'ailleurs s'il était vraiment maître de poste. Il y avait des maîtres de poste dans sa famille, mais lui, c'est un ancien dragon. Il est habitué à servir le roi et en fait, il intervient surtout après le retour de la famille royale. On ne sait même pas s'il était vraiment à Saint-Menehould au moment où la famille royale est passée, mais c'est lui qui, en fait, va donner du crédit à la version officielle choisie par Louis XVI au retour à Paris. Ça va être une espèce de témoin comédien qui va dire « voilà comment ça s'est passé et quel rôle j'ai joué là-dedans », mais en fait, tout ça, c'est de la fiction, c'est de la recomposition après coup pour servir les ambitions de Louis XVI, en fait, ce qui ne voulait pas compromettre les gens qui étaient impliqués dans son plan de messe.
Comment il se justifie, Louis XVI, de sa fuite ensuite, l'après ?
Alors, pour lui, justement, c'est un peu compliqué, puisque comme il a été trahi par son frère, c'était pas du tout attendu, il se retrouve finalement dans la même situation que Marie-Antoinette, et donc son objectif premier, c'est de ne pas compromettre justement les gens qui sont avec lui dans ce plan. Donc, il adopte une solution un peu bâtarde, hein, qui est de reprendre la trame du plan de Marie-Antoinette, aller à Montmédy, mais en disant que, en fait, il allait là-bas effectivement de son plein gré, puisqu'il peut plus défendre la thèse de l'enlèvement, mais parce que il savait qu'il y avait des bruits de rassemblement de troupes à la frontière, mais que son ambition, c'était pas du tout de sortir du royaume. Et en fait, bon, ça ne convainc pas grand monde, et pendant quelques jours, en fait, il essaye de profiter de la confusion et du mécontentement pour pousser l'idée républicaine à laquelle il tient toujours. Mais là, à ce moment-là, en fait, ses opposants royalistes lui répondent, notamment le journaliste du Rosoy, en évoquant le souvenir de Charles Ier, le roi d'Angleterre décapité, et en essayant de faire avancer l'idée que s'il y a une république, s'il y a la fondation d'une république, ça doit aller avec la mise à mort du roi. Et en fait, ce qui se passe dans cet après-Varennes, c'est qu'on a un peu le début de la préparation, en fait, du 21 janvier 1793.
En tout cas, on peut le dire avec votre livre, L'Intrigant, vous revenez sur un certain nombre d'hypothèses, ou en tout cas de ce qu'on croyait jusqu'à présent, parce que Louis XVI révolutionnaire, ça, je l'avais encore jamais entendu.
Vous êtes tout chamboulé, mon Stéphane.
Ah, mais j'en perds la tête. Merci Aurore Chéri. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, c'est intéressant, il faut absolument le lire, L'Intrigant, nouvelle révélation sur Louis XVI qui vient de paraître aux éditions Flammarion.
Je vous remercie.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, et elle nous raconte de belles histoires.
C'est Clémentine, oui, Clémentine Lac, bien sûr.
Oui, Mathieu, tout le monde l'a reconnu.
Vous rendez compte quand même de la connaissance intime de l'histoire de Stéphane Bern, parce qu'on parle de Catherine Médicis et paf, tout de suite, ses jambes, c'est ce qu'elle avait de mieux.
C'est ce qu'elle a de mieux.
Et oui,
c'est vrai.
Elle n'était pas jolie, Catherine de Médicis. C'était même, vous voyez, avec l'âge, on prend des rondeurs, on ne s'arrange pas forcément, comme disait le général de Gaulle, mais enfin, elle-même, jeune, n'était pas très belle, c'était un peu un pot à tabac. Et puis surtout, c'est vrai, mais en plus, il faut le dire, en plus, c'était quand même compliqué pour elle de rivaliser avec Diane de Poitiers, la belle des belles, la maîtresse de son mari. Donc, c'était très humiliant pour elle. Mais il semblerait qu'en effet, elle ait eu de très belles jambes, d'une finesse et d'une ligne admirable, disent les contemporains. Et alors, mais comment faire Vous avez de belles jambes, mais on
il faut
de...
les montrer.
On ne peut pas les montrer, les
pommes. Ça ne sert à rien si vous ne les montrez pas.
Exactement. Et on n'a pas le droit de montrer ses jambes, même la cheville. Non. Et ça va rester vrai de la fin du 15e jusqu'au 18e. Une dame ne montre pas ses jambes. Alors, comment montrer ses jambes? D'abord, éventuellement en dansant. Ah oui. Et au début de la période baroque, à la cour des Valois, où l'on cultive l'art de paraître, le bal, la danse ont une importance majeure. On a tendance à l'oublier, mais savoir danser à l'époque est tout aussi important que savoir monter à cheval ou savoir manier l'épée. Ça fait partie de l'éducation de la noblesse, la danse. Et ainsi que nous le dirait Olivier Pauls, qui à chaque fois qu'il y a une recette, genre du sabayon, nous explique que c'est Catherine de Médicis.
C'est toujours elle.
C'est toujours
recette.
Catherine de Médicis qui, elle, a introduit toutes sortes de choses en France. Et bien aussi, la pratique du ballet. Le balletto, c'est un mot italien. Ça vient du latin ballo, ballare, danser. Et c'est Catherine de Médicis qui va faire du ballet une arme de propagande.
Propagande de ses jambes, c'est ça?
De ses jambes et aussi de ses fistons. Parce que quand on représente le
bal
roi
des Ardents.
Zeus, exactement. Le bal des Ardents. Oui, là, tout le monde prend feu à la fin, c'est moins joyeux. Bon, enfin, bref, l'allégorie, non, ça permet de faire l'éloge du roi sous couvert des vocations des divinités grecques. Alors, Catherine de Médicis, elle adore danser. Et c'est vraiment un domaine dans lequel elle excelle.
Elle aurait fait de danse avec les stars aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait.
Volontiers, quoi. Bah oui, ça aurait fait de l'audience.
Ah,
hein.
J'essaie de l'imaginer dans une tenue d'époque en train de faire danse avec les stars. Oui, mais... Alors, vous comprenez, en matière de danse, il y a des danses lentes, des danses majestueuses comme la pavane. Ça, ce sont les danses qui permettent à toute la haute noblesse de défiler devant l'ensemble des courtisans et invités, de montrer, m'avez-vous bien regardé, avez-vous vu l'opulence de ma tenue. Mais il y a les danses sautillantes, comme les gaillardes courantes et autres branles, mais aussi la volte. La volte, c'est une danse qui est considérée comme immorale parce qu'elle dévoile la jambe de la danseuse. C'est très amusant de voir des gravures ou des toiles représentant la volte parce qu'en gros, faut imaginer le monsieur qui se met derrière la dame, il lui prend les deux mains et tout d'un coup, il administre un gigantesque coup de genou dans les fesses de sa danseuse.
Non.
pour la faire s'élever dans les airs, si vous voulez. C'est ça, la volte.
Ah, à l'époque,
ça choquait beaucoup. Ça devait être assez ridicule aussi. Puis, dans une époque où on n'a pas le droit de montrer sa cheville, que le monsieur par derrière vous donne un grand coup de genou dans le postérieur pour vous faire voltiger dans les airs, c'était un petit peu paradoxal. Alors, je précise tout de suite que la gaillarde, par exemple, c'est une danse d'origine italienne, et la sarabande, c'est une danse espagnole. Mais tout le monde la connaît dans toute l'Europe, parce qu'à l'époque, on n'a pas une culture de pays, on a une culture de classe. Alors que vous soyez à la cour de Madrid ou à Paris, au Louvre, vous savez danser évidemment la gaillarde et la sarabande. Alors, quel est l'autre moyen de montrer ses jambes, Mathieu? La danse.
Dans l'alcôve.
Dans l'alcôve, ça, bien sûr, on suppose qu'elle montrait ses jambes à son mari. Non, à cheval aussi. Alors, Balzac raconte que c'est Catherine de Médicis qui aurait mis au point une façon particulière de monter à cheval, un peu ce qu'on appelle l'Amazone. Et elle l'aurait fait pour pouvoir montrer ses jambes, justement. Je cite Balzac. Elle montait à cheval à la planchette, tel était le nom que l'on donnait alors à l'étrier, inventé pour ou par Catherine, qui s'était blessée à la jambe et qui appuyait ses deux pieds sur une espèce de bas de velours en s'asseyant de côté sur le dos du cheval et en passant une jambe dans une échancrure de la selle. Comme la reine avait de très belles jambes, elle fut accusée d'avoir trouvé cette mode pour les montrer. Voilà. Alors enfin, évidemment, là vous me voyez venir avec mes gros sabots, Stéphane. Si on veut vraiment se faire une idée plus concrète sur les jambes de Catherine de Médicis, on peut aller les voir. Ou plutôt
comment
la
ça?
Voir.
Bah oui. Oui, on a la jambe.
Oui. Ah. Au moment du sac de l'abbaye de Saint-Denis, nos aïeux sans culotte, hein, en 1793, sont allés s'approprier un certain nombre de restes organiques et la jambe de Catherine de Médicis.
Mais elle doit être décomposée.
Alors, écoutez, elle est. Moi, je dirais pas décomposée, je dirais plutôt boucanée. Hein. Vous pouvez aller la voir à Pontoise parce que, en fait, c'est le sieur Brulet qui était receveur des domaines de Saint-Denis qui a récupéré cette jambe. Il s'en est défait auprès d'une certaine Madame Tavet. Et aujourd'hui, il y a à Pontoise un musée qui s'appelle le musée Tavet de la Cour et qui possède toutes sortes de reliques de Saint-Denis et donc cette jambe. Alors, oui, elle est plutôt boucanée, si vous voulez, parce que Catherine de Médicis est morte à Blois. Il n'y avait sans doute pas toutes les matières et les baumes nécessaires pour faire un embaumement 5 étoiles. Donc, ce fut service minimum. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Pierre de l'Étoile, un chroniqueur contemporain, qui dit « Adorée et révérée de son vivant comme la Junon de la cour, elle n'eut pas plutôt rendu l'âme qu'on n'en fit pas plus de compte qu'une chèvre morte. C'est sympa pour parler de la reine.
Bon. Donc ils ont complètement bâclé la momification.
Ben, il semblerait peu, mais enfin pour revenir à cette fameuse jambe. Alors imaginez une sorte d'aquarium recouvert d'une sorte de petite housse en tissu provençal très jolie, hein, et vous enlevez la housse, hein, un petit fourreau à fleurettes, et là, alors là, vous essayez d'imaginer une sorte de dose de jambon cru
en lévitation
dans un aquarium. Ouais, c'est ça. Et ben, c'est vrai.
Mais pourquoi on n'a pas remis la jambe dans le
dans
lorsqu'on
l'ossuaire.
A réinhumé où est dans ouais. l'ossuaire de Saint-Denis?
Oh, parce que c'est peut-être une opération un peu compliquée, c'est vrai, vous avez raison. Alors, vous vous rendez compte, Stéphane, tout ce qu'il faudrait réinhumer, on a les dents du roi d'Agobert, la moumoute de Philippe Auguste, là, ça va être les moustaches d'Henri IV, ça va falloir... Est-ce qu'on réinhume tout ça, ou est-ce qu'on laisse là où c'est? Bon. Alors, en tout cas, c'est vrai, quand on voit cette espèce de jambe boucanée en lévitation dans son aquarium, on serait un peu tenté de s'en tenir à un bref coup d'œil, mais quand on sait que Catherine de Médicis fut une brillante danseuse, une cavalière émérite. Alors là, on voit soudain, à l'image de cette jambe desséchée que l'on a sous les yeux, s'imposer celle d'une Catherine vivante, en tenue de grand deuil, dansant la pavane sous le plafond à caissons d'un salon du Louvre. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait.
C'est magnifique. Vous regardez une jambe boucanée et vous imaginez ce qu'elle a été.
Bah, visiblement, exactement. Vous aussi, Stéphane, ouais. puisque tout à l'heure, quand on a introduit le sujet, vous avez dit que c'était ce qu'elle avait de mieux, ses jambes. Donc, c'est cette jambe-là que vous avez vue. Donc, c'est cette jambe-là que
je ne l'ai jamais vue boucanée. Je l'ai jamais vue imaginée.
Je vois clair dans votre jeu.
Je ne l'ai jamais vue boucanée.
Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous. Qui aura le dessus aujourd'hui dans notre célèbre quiz de culture générale? Une historienne diplômée, ancienne rédactrice des questions du Trivial Poursuite édition Paris, ou bien un baladin cathodique anciennement de son propre aveu d'MPP au château de Versailles? Moi, je sais sur qui je mise.
Oui, vous misez sur Clémentine, je sais.
Voilà.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Les amis, comme disait Chateaubriand, il y a un temps pour être sérieux, raisonnable et pondéré, et il y a un temps pour kiffer sa mère. Oui, François, c'est tout ce que je dis dans cette émission est 99% vrai. François René a raison, jouons à Bern to be alive, le quiz préféré de Chateaubriand, grand fan de Stéphane Bern. Stéphane, première question, elle est pour vous. Concentrez-vous, nous partons dans l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, on utilisait un spermicide... à base d'excréments de crocodile. Vrai ou faux, Stéphane?
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un spermicide, c'est quelque chose de très astringent, j'imagine, non? À base d'excréments de crocodile.
J'adore vos raisonnements.
Écoutez, oui. Moi, je dirais oui, parce que dans l'Égypte ancienne, on utilisait toutes sortes de mélanges et qu'on plaçait dans les parties. Moi, je dirais oui, écoutez.
Qu'on plaçait dans les parties, d'accord.
Oui, parce que, voyez-vous, le crocodile...
Dites-nous un petit peu comment ça se passe exactement. Vous étiez médecin.
Il vit dans le Nil.
Oui.
Il vit dans
le crocodile vit dans le Nil, oui.
Ah oui, oui, oui. Et
donc, il n'était pas très loin. Lorsqu'on était à Luxor, on disait, tiens...
Oui, on était à Luxor, comme ça, on avait un petit problème de...
J'ai besoin d'un petit problème de spermicide.
Vous avez rencontré plein d'Égyptiennes assez sympathiques, vous aviez fauté, oui, d'accord. Très bien, donc là...
Moi, j'ai toujours pensé de façon... Les Égyptiens avaient toujours tout inventé. Oui. Donc, oui, les Égyptiens ont inventé un spermicide à base de crocodile. Oui, absolument.
Le raisonnement est admirable. La réponse le sera-t-elle?
Vous avez...
Bon, mais ma parole, vous y étiez dans l'Égypte antique. Ouais. Stéphane, bonne réponse.
J'ai bien senti que les crocodiles, ça allait marcher.
J'aurais accepté aussi les excréments d'éléphant, car il existait deux recettes. À l'époque, c'était mélangé à du miel et des dattes. On utilisait cette mixture il y a près de 3800 ans. Ne reproduisez pas ça chez vous, hein, l'efficacité n'a jamais été vraiment prouvée. Question numéro 2 pour vous, Clément. On connaît 1515, mais moins 1616. C'est pourtant à cette date que la statue de Felipe III en Espagne est installée sur la célèbre Plaza Mayor à Madrid, où il est représenté sur son cheval. Aujourd'hui, le socle de la statue est également un immense piège à rats. Vrai ou faux?
Piège à rats?
Le socle de la statue est un piège à rats.
Piège à rats géant, une tapette géante.
Alors, ça voudrait dire que le socle est creux et qu'il a été endommagé au point de pouvoir laisser passer des rats, à moins qu'il y ait une trappe sous la statue ou dans ses environs.
Avec un petit fromage dedans.
Une statue qui devient un piège à rats. Non, moi je pense que vous voulez m'avoir et comparer avec l'éléphant de la Bastille qui était en effet un immense piège à rats. Soit c'est vrai et vous allez comparer à l'éléphant de la Bastille, soit c'est faux parce que vous voulez me parler de l'éléphant de la Bastille, donc je vais dire que c'est faux.
Et si je ne voulais pas du tout vous parler de l'éléphant de la Bastille?
Vous avez gagné!
Bien joué Clémentine, vous n'êtes pas tombée dans le piège.
Elle déjoue tous vos pièges.
Et alors, dans les années 30, la statue a été partiellement détruite par une bombe. On a découvert des centaines de cadavres de pigeons à l'intérieur de la statue qui entraient par la bouche du cheval, mais n'arrivaient plus à sortir. La statue a été réparée et la bouche du cheval scellée.
Et fermée.
Mais oui. Exactement.
Ah d'accord, oh, très intéressant.
Pour l'instant, très bon niveau dans ce quiz, que des bonnes réponses. Attention Stéphane, question numéro 3. Avant d'être colonisé par les chrétiens, les Indiens d'Amérique pratiquaient le mariage gay. Vrai ou faux?
Oh là là.
Bah, la polygamie, oui.
Alors, on ne parle pas de polygamie, on parle de mariage.
Non, mais je réfléchis tout haut, là. Est-ce que c'est
mais c'est Stéphane qui devrait réfléchir, c'est sa question.
Et je ne pense pas que ça s'appelait les mariages gays
mais
à l'époque.
Mais je ne dis pas que ça s'appelait le mariage gay, Stéphane. Je vous dis que
on sent le gars qui a fait de l'histoire, là.
Un homme pouvait se marier avec un homme, une femme avec une femme. C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'était possible ou est-ce que c'est absolument inventé?
Alors, je veux pas vous paraître pédant, etc. J'ai lu dans Historia ou Histoire Magazine, un truc comme ça, qu'il y avait des... Oui. Ils avaient des genres différents que... Oui. Parce que l'idée du transgenre existait déjà.
C'était pas le journal de Mickey, ça, plutôt?
Non, non.
C'était Historia. Hein.
Écoutez, moi, je dirais oui.
Vous dites oui.
Ils pratiquaient depuis des siècles. Oui.
Ils pratiquaient, mais est-ce que le mariage était... Bon, bref, nous allons voir la réponse.
Vous avez...
Bravo Stéphane. Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, nous avons une vision binaire du genre, alors que les tribus amérindiennes distinguaient 5 genres. Vous l'avez dit Stéphane, vous l'avez lu dans Historia. Les hommes, les femmes, les hommes-femmes, les femmes-hommes et les trans, limitant ainsi les préjugés sexistes. Les premiers colons aux États-Unis, qui ne s'appelaient pas évidemment les États-Unis, ont donc été confrontés à des femmes guerrières et à des hommes gardiens du foyer. Voilà la société qu'on a découverte est rapidement oubliée. Bien joué Stéphane. Question numéro 4 pour vous Clémentine Portier-Keltenbach. Braunau am Inn est une ville d'Autriche mondialement connue, pas de moi, car c'est le lieu de naissance d'Hitler. Ben voilà, je le sais. À la place de la maison où il est né aujourd'hui, c'est une épicerie orientale, vrai ou faux?
Oh, je le crois volontiers parce que vraiment, on a vraiment cherché à détruire tous les lieux qui étaient liés à sa triste épopée et afin que ça ne puisse pas devenir des lieux de célébration, de commémoration. Donc je dirais oui.
Vous dites oui.
Je trouverais ça amusant qu'il y ait un magasin oriental à l'époque à la place.
Vous avez perdu.
Ah zut. Ah.
Je suis déçu pour vous. C'est encore un bon raisonnement, mais c'était pas la bonne réponse. C'est faux. C'est un commissariat de police.
Ah,
à cet
d'accord.
emplacement, le ministère de l'Intérieur autrichien a tenu à occuper cet endroit pour éviter que le lieu devienne un lieu de pèlerinage nazi. Qui remporte ce quiz?
Bah c'est Stéphane.
Mais c'est Stéphane Bern, événement historique.
Oui, excusez-moi, on ne peut pas
le
exagérer.
Avec le spermicide de crocodile et les
vous savez, ça arrive plus souvent que vous ne voulez le dire.
C'est vrai, on doit être à 50-50, on tiendra les statistiques. Bravo Stéphane.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, historiquement vôtre, c'est 2 heures d'un voyage à travers le temps, 2 heures de bonne humeur informative et de scoop, signé Stéphane Bern.
Car rappelons-le, colon est un colon.
C'est vraiment une émission dont on ressort moins con, pas vrai Stéphane?
Oui, mais pas forcément grâce à vous Mathieu.
Oui, c'est vrai.
Chaque après-midi, on réunit 3 personnages de l'histoire assez éloignés sur le papier, mais qui ont un point en commun. Aujourd'hui, celui de s'être exclamé devant le danger. Courage, fuyons. J'ai raconté l'histoire de la fuite à Varennes de Louis XVI. Je vais maintenant vous parler d'une autre fuite légendaire, celle de Marie de Médicis. Et quant à vous, Mathieu, vous parlerez d'un fuyard plus contemporain.
J'aurais pu vous parler de moi-même quand l'autre jour au resto avec l'équipe, j'ai fui au moment où Pouls tentait de nous faire commander des oreilles de cochon. Mais non, je vous parlerai d'un fuyard plus étonnant encore, Juan Carlos, de roi sauveur de la démocratie, à paria en fuite pour éviter la tôle dans de sombres affaires de fraude fiscale. Vous verrez, comme on dit, c'est pas joli joli, no es bonito bonito, comme on dit à Madrid. En attendant, présentons les chroniqueurs qui feront notre miel dans la dernière demi-heure de cette émission. Stéphane les appelle, sans qu'on sache si c'est flatteur ou non,
les remueurs de queue.
Bonjour David Castello-Lopez.
Mais bonjour.
Aujourd'hui, l'origine d'un objet, comme j'avais, ou d'un jeu.
Oui, tout à fait. J'aime bien faire les origines des jeux quelquefois. On avait fait le Trivial Pursuit à une époque, vous vous souvenez? Ouais. Et maintenant, on va faire le Monopoly. Le Monopoly qui est un des principaux jeux. Un jeu très très cruel et on verra les origines de cette cruauté.
Ouais, le capitalisme, un jeu très très capitaliste surtout. Ouais,
tout à fait.
Et il se décline dans chaque pays et chaque région même. C'est
tout
ça
à fait.
Qui est fou.
Il y en a au Portugal.
Et puis,
mais bien sûr.
C'est vrai. Bien sûr.
Il y a l'eau courante également.
C'est quoi la rue la plus chère dans le Monopoly portugais?
Je ne sais pas.
Mais comment ça, vous ne savez pas?
Je vais revenir vers
vous
et je vous dirai.
Mais vous êtes un bon portugais.
La rue de l'or, à mon avis, est Lisbonne.
Rua Augusta, peut-être, celle qui donne sur la place du commerce.
La place du commerce, oui. Eh bien, avec Olivier Pouls, nous parlerons justement des pieds de porc. Ces célèbres pieds de porc que Louis XVI aurait mangé à Sainte-Menoul, où il aurait été arrêté, comme le raconte la légende. Maintenant, il va nous dire aussi si on dit Sainte-Menoul, comme je le fais, ou Sainte-Menou, comme disent les locaux.
Je crois qu'il n'en a aucune idée.
Oui, là, ça, franchement, là, je ne peux pas beaucoup vous aider, mais effectivement, vous avez raconté cette anecdote tout à l'heure, lors de la fuite de Louis XVI, qui est par gourmandise...
Non, mais ça paraît un peu dingue quand même.
Mais en attendant, les pieds de porc à la Sainte-Menoul sont très bons, et je vais vous donner la recette.
Ça mérite, vous voulez dire, on peut comprendre qu'il s'arrête.
J'aurais été lui, j'aurais hésité.
Ah oui, vous auriez été lui, vous auriez hésité. Oui, ça en dit long sur lui.
Alors, Louis XVI est maintenant, on le sait, un révolutionnaire, mais qui s'arrête pour des pieds de cochon.
Exactement. Enfin, Stéphane, c'est vous qui aurez évidemment le mot de la fin. Chaque jour, l'histoire d'une expression aujourd'hui.
Avoir la science infuse. C'est vrai, c'est un peu contradictoire. Où on a de la science, parce qu'on apprend. Oui. Mais si ça infuse, vous voyez, c'est...
Oui, c'est vrai que c'est étonnant.
C'est très bizarre.
Vous nous décrypterez tout ça. Mais tout de suite, partons à la rencontre d'une autre fuyarde célèbre, Marie de Médicis. Attention, Stéphane, elle est déjà partie. Dépêchez-vous.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Imaginez. Depuis avril 1617, Marie de Médicis est enfermée au château de Blois. Son fils, le roi Louis XIII, l'a volontairement éloignée de Paris. Elle, sa maman, mais surtout régente, il veut à présent exercer pleinement son rôle de roi de France. Mais Louis XIII, 16 ans, n'est pas un monstre sans cœur. Il n'a pas désargenté sa mère, au contraire, il a mis à sa disposition 7 de ses 100 gardes suisses. Marie de Médicis perçoit toujours ses rentes royales. Elle est entourée d'une cour conséquente et dévouée. Elle s'occupe en faisant du jardinage. Elle fait venir de Gênes des orangers, crée une serre, organise des dîners, des concerts, des ballets. Mais celle qui fut au cœur du pouvoir en épousant Henri IV, puis en assurant la régence de son fils, ne supporte pas d'être éloignée de Paris et surtout de la vie politique. Elle trouve insupportable d'être mise à l'écart par son propre enfant, influencé, il est vrai, par le duc de Luynes, son favori. Marie de Médicis hait profondément ce duc. C'est lui qui est à l'origine de l'assassinat de son favori, Concini, et en grande partie responsable de son exil à Blois. Alors la Florentine, qui pendant sa première année cloîtrée s'est montrée obéissante envers le roi, prépare dans le plus grand des secrets son évasion. En sous-main, Marie de Médicis contacte son allié, le duc d'Épernon, gouverneur de Metz. Comme la reine-mère, il déteste le duc de Luynes. Il accepte de prendre part au projet d'évasion de l'ancienne souveraine. Mais il faut agir vite. Au début de l'année 1619, les choses s'accélèrent. Louis XIII envoie une lettre à sa mère pour lui annoncer sa visite avec le duc de Luynes. Marie de Médicis prend peur. Elle soupçonne le duc de vouloir la faire déménager chez lui à Amboise. Surveillée nuit et jour, elle n'aurait alors plus aucun moyen de s'enfuir. Le 21 février, un gentilhomme arrive au galop au château de Blois. Il confirme que le duc d'Épernon serait prêt à accueillir la reine-mère dès le lendemain. Mais rien ne prouve que ce gentilhomme n'a pas été envoyé auprès de Marie de Médicis par son perfide adversaire.
Ça serait sacrément perfide.
Il prouverait une fois pour toutes les mauvaises intentions de l'ancienne régente. Mais Marie est têtue. Elle prend le risque d'être capturée et déshonorée aux yeux du roi et de tout le royaume. L'évasion se déroule dans la nuit du 21 au 22 février 1619. Une évasion digne du théâtre comique. Certains historiens fixent le début à 3h du matin, d'autres à 6h, mais la plupart s'accordent sur l'itinéraire emprunté. Première étape pour une femme de 46 ans, enjamber la fenêtre de son appartement. Pour cela, Marie de Médicis retrousse sa robe et escalade la croisée. C'est pas la même qui a les belles jambes.
Je sais, mais à l'époque, c'est toujours tabou.
Non seulement c'est tabou, mais il faut imaginer, comment on l'appelait, la grosse banquière, voyez-vous.
C'est classe.
Ne faisons pas de grossophobie, mais tout de même, elle avait du mal.
Donc ça a été très, très dur pour elle.
Marie de Médicis retrouve sa robe, escalade la croisée. Devant elle, un écuyer ouvre la voie. Derrière suivent sa servante, deux policiers exemptés de service, une de ses naines, selon les sources, et un valet italien. La suite du parcours s'annonce plus périlleuse. Des échelles de cordes ont été disposées le long de l'aile du château d'où s'enfuit la reine-mère. Mais cette épicurienne souffre, comment dire, d'un certain embonpoint. Le manque d'activité et la délicieuse cuisine italienne lui ont façonné une silhouette bien plus gironde qu'à son arrivée en France 19 ans auparavant. Elle est en plus alourdie par ses effets personnels et ses nombreux bijoux qu'elle a cousus dans les plis de sa robe et dont elle ne veut absolument pas se séparer. Pour comprendre la complexité du parcours, il faut se replonger dans les conditions de cette descente. Il fait nuit, les fugitifs n'utilisent aucune lumière et le dénivelé est vertigineux, 40 mètres, soit une douzaine d'étages. Pour une femme qui n'a jamais vraiment aimé le sport et a eu pour habitude toute sa vie de se faire servir, c'est un défi de taille et un défi de poids. Plusieurs fois, Marie de Médicis manque de lâcher prise et de venir s'écraser des dizaines de mètres plus bas. Mais le temps presse et, arrivée uniquement au premier palier, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas rejoindre la terre ferme sans aide. Décision est prise d'enrouler la reine-mère tel un paquet dans un manteau. Fermement ficelée, voilà que l'ancienne régente de France est Anna Arnachée et descendue en rappel, sécurisée à bout de bras par ses chevaliers servants. Heureusement, l'atterrissage se fait plutôt en douceur sur les éboulis du mur de soutènement. Au passage, elle égare une cassette de pierreries qui sera retrouvée plus tard. Ragaillardie, Marie de Médicis enlève le cordage qui la ceint et marche d'un bon pas vers le pont de Blois où doivent se trouver le carrosse et 6 chevaux qui la conduiront en lieu sûr. Elle retrouve sa vigueur d'antan en pensant à la liberté qui l'attend. Entourée de ses 2 gentilshommes, la reine suscite des plaisanteries graveleuses. Les rares badauds qui la croisent la suspectant d'infidélité avec 2 hommes, cela la fait rire. Oh, ils me prennent pour une bonne dame. Oui, elle est italienne, je sais pas pourquoi
oui,
j'ai l'accent de Marseille.
Oui, vous faites un petit peu l'accent de Marseille, on ne sait pas ce qu'il vient faire là, mais c'est toujours charmant, Stéphane.
N'est-ce pas? Merci. Une fois le pont franchi, une angoisse la submerge. Le carrosse tant espéré n'est pas là. Impossible d'allumer une torche pour chercher la voiture. Et si ses craintes se révélaient exactes? S'il s'agissait d'un piège fomenté par le perfide duc de Luynes? Au bout de quelques minutes, les fugitifs trouvent enfin le carrosse stationné un peu plus loin. Dans la pénombre, pour ne pas éveiller les soupçons, évidemment, Marie de Médicis est soulagée. Après environ 70 km au total, elle gagne enfin le château de Loches, où l'attend le duc d'Épernon. La fuite a pris, en tout et pour tout, 3 heures. Les jours qui suivent, l'objectif de Marie de Médicis est de retrouver son statut de reine-mère et d'ancienne régente, de reconquérir la confiance de son fils, le roi Louis XIII. Après de nombreuses tractations orchestrées notamment par Richelieu, le 5 septembre 1619, au château de Couzières, près de Montbazon, mère et fils se retrouvent, s'embrassent et pleurent abondamment. Pendant 10 ans, Marie de Médicis supervise la construction de son palais du Luxembourg et est même réintroduite au conseil du roi. Mais en juillet 1631, Louis XIII, qui ne la trouve pas digne de confiance, lui demande de quitter définitivement la cour. S'ensuivent 11 années d'errance hors de France jusqu'à ce que Marie de Médicis meure en juillet 1642 en exil à Cologne.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour mieux comprendre ce qu'a fait Marie de Médicis, aussi pour comprendre pourquoi Stéphane Bern a soudain pris l'accent marseillais pour imiter Marie de Médicis, nous sommes avec l'historien et journaliste Philippe Delorme. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Oui Philippe, vous avez publié, je me souviens, il y a quelques années, une biographie consacrée à Marie de Médicis, chez Pygmalion, dans la collection Histoire des Reines de France. À la mort de son mari, Henri IV, Marie de Médicis devient une femme d'État. Leur fils était évidemment trop jeune pour régner, mais elle a été préparée à son rôle de régente, non ?
Préparée, oui et non. Enfin, c'est une Médicis, donc elle est née dans une des familles régnantes d'Europe. Son père était le grand-duc de Toscane, donc c'est quelqu'un qui a le sens de la majesté, de l'importance de son statut politique. Donc elle va prendre vraiment ce rôle de régente à bras-le-corps dès la mort d'Henri IV. Hein. Et là, vous avez repris un peu la légende noire de Marie de Médicis, la grosse bancaire, indolente, grosse et un peu idiote. Je pense qu'il faut, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, la réhabiliter, parce qu'elle va savoir pendant cette régence mater les grands. Il n'y a pas de guerre civile, elle réussit à... On est quand même 10 ans après la fin des guerres de religion, tout aurait pu éclater à nouveau, et bien elle va réussir à maintenir la paix civile en France, donc c'est quand même un bel exploit de sa part.
Philippe Delorme, vous essayez de réhabiliter, on sent Marie de Médicis, mais est-ce qu'on peut revenir quand même, Stéphane le disait, pourquoi cette réputation? Pourquoi la grosse banquière florentine? C'est dû à une mauvaise gestion politique ou
non.
c'est
c'est au contraire, elle avait beaucoup d'argent d'abord.
Qu'est-ce qui se passe?
D'abord, parce qu'Henri IV, il faut dire qu'Henri IV l'a épousée pour sa dot. Elle était belle vue de dot, elle.
Absolument, elle se marie avec Henri IV en 1600, elle a 25 ans, lui, il a le double de son âge, il lui faut une femme qui soit capable de lui donner des enfants. Effectivement, elle va donner 3 fils et 3 filles à la couronne, donc ça c'est absolument nécessaire également, mais elle va surtout effacer l'ardoise que Henri IV avait auprès du duc de Toscane. Le duc de Toscane, Florence, c'était un peu la banque, les banques italiennes à l'époque, c'était vraiment le réservoir d'argent de l'Europe et des cours souveraines. Donc c'est un mariage arrangé, mais en même temps c'est un mariage qui va aboutir à une certaine complicité. Alors bien sûr, Henri IV, on le connaît, il a des dizaines de maîtresses, il la cocufie abondamment, mais en même temps, il y a une espèce de complicité entre lui et Marie de Médicis. Ils dorment dans le même lit, ce qui est quand même assez étonnant pour une famille,
surtout avec l'odeur,
un roi et une reine à l'époque. Oui, avec l'odeur d'Henri IV, bien évidemment.
Mais ce qui est fou, Philippe, c'est qu'il allait, la veille de la mort d'Henri IV, il y a eu le couronnement de...
Voilà, donc ça prouve qu'Henri IV avait confiance en sa femme. Henri IV allait partir au moment où il est assassiné par Ravaillac, le 14 mai 1610. Il allait partir en guerre en Allemagne. Et donc, il avait confié en quelque sorte la régence à sa femme en la faisant couronner à Saint-Denis officiellement et solennellement. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas y avoir trop de hiatus pour, après la mort, elle va recueillir cette régence assez facilement.
Mais pourquoi elle a des rapports compliqués avec son fils Louis XIII. Alors, rapport étrange, c'est quelle mère, quel genre de mère était-elle?
Alors, c'est pareil, ça fait partie aussi un peu de la légende noire. Vous parliez de la légende noire, c'est le 19e siècle qui la crée, surtout Michelet, les historiens du 19e, qui étaient d'affreux machos. Donc, c'est une reine, elle est catho, et en plus, elle est italienne. Donc, pour des gens du 19e siècle, ça fait beaucoup de tare. Finalement, quand on reprend, par exemple, le journal des Rohards, vous savez, le journal des Rohards, c'était le médecin du jeune Louis XIII. Et donc ça, on a au jour par jour des petites anecdotes sur la vie de l'enfant. Eh bien, on se rend compte qu'en lisant ce journal des Rohards, les rapports entre Louis XIII enfant et sa mère sont beaucoup plus confiant finalement qu'on pouvait l'imaginer, et que finalement Louis XIII était plus proche de sa mère que de son père, qui était un personnage fantasque, qui était obsédé sexuel, etc. Donc on a finalement, quand on regarde les choses de près, on se rend compte qu'il y avait une certaine complicité. Alors après, évidemment, quand Louis XIII commence à grandir, quand il a 17 ans, il va ruer dans les brancards et va se débarrasser de l'ascendant de sa mère. Ça, c'est un peu normal, un peu très humain, mais il y a quand même une certaine complicité qui va durer très longtemps entre Louis XIII et sa mère.
Mais de là quand même à s'évader du château de Blois, c'est vrai que c'est tragicomique. Elle descend en rappel les 40 mètres. Oui. Pour elle, c'est un véritable défi. Enfin,
ça serait un défi pour nous tous, je pense, parce que vous connaissez le château de Blois. Quand on voit la muraille de 40 mètres qu'il fallait descendre, moi je le ferais pas. Alors effectivement, c'est une dame qui a eu 6 enfants, qui avait effectivement le goût pour la bonne chair. Donc elle est relativement un certain embonpoint. Mais bon, de là à s'en moquer. Ok, c'est vrai, ça a un côté toujours un petit peu, voilà, on se moque assez facilement. Ça, c'est le 19e siècle, un peu moqueur qui revient. Maintenant, Louis XIII, si on revient sur le personnage de Louis XIII, c'est un personnage qui est assez effacé, assez fade et qui va toujours être dans l'ombre de ses conseillers. Il va d'abord être dans l'ombre de sa mère, ensuite dans l'ombre du duc de Luynes qui meurt en 1621. Ensuite, Richelieu, il faut bien voir que Richelieu a été amené à la cour par Marie de Médicis. Richelieu est la créature de Marie de Médicis.
Oui, bien sûr.
Voilà, et il va la trahir honteusement pour s'installer, s'installer à la première place et la mettre sur la touche.
Philippe Delorme, un mot de la fin peut-être de Marie de Médicis, qui est chassée de France les 11 dernières années de sa vie. Elle va où? Elle voit plus jamais son fils?
Ah non, pas du tout. Elle part à Compiègne après cette journée des dupes dont Stéphane vient de parler. Elle quitte Compiègne en 1631. Elle part vers ce qu'on appelait les Pays-Bas espagnols actuellement, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande. Elle va aller en Hollande. Ensuite, elle va passer en Angleterre où règne sa fille Henriette, donc qui avait épousé le roi Charles Ier d'Angleterre. Là, elle va être obligée de partir parce qu'elle est catholique et qu'on sait qu'en Angleterre, les choses ne sont pas faciles à ce moment-là sur des questions religieuses. Donc elle revient sur le continent et puis finalement elle va mourir assez tristement, hein, pratiquement oui, ruiné à Cologne, quelques semaines avant Richelieu et quelques mois avant son fils. Hein. Donc tous ces gens-là vont mourir dans un mouchoir de poche, je dirais, en 1642, 1643. Les trois protagonistes vont se suivre dans la tombe en quelques mois.
En quelques, oui. C'est une expression, hein, dans un mouchoir de poche, Mathieu.
Voilà. Non, mais c'est surtout parce que vous avez un léger lapsus, vous avez dit dans un mouchoir de proche, ce qui était très joli.
De proche.
Oui, une vraie proximité dans le temps, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Delorme. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, Les Rois éphémères, de Romulus Augustule à Jean-Paul Ier, en passant par l'Aiglon, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, aux éditions du Cerf. Merci beaucoup,
merci
Philippe.
À vous. Merci beaucoup, à bientôt.
Ici Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Le portrait à 99% vrai de notre troisième personnage, c'est tous les jours avec vous, Mathieu. D'habitude, c'est un moment rieur que j'apprécie. Aujourd'hui, ça risque d'être plus douloureux parce que vous allez évoquer la fuite d'un Bourbon que j'ai beaucoup admiré.
Oui.
Juan Carlos, l'ex-roi d'Espagne, le roi émérite, comme on dit, qui a quitté Madrid cet été, suite, dirons-nous, avec des démêlés avec sa maîtresse d'abord. Et puis, des démêlés avec le fisc aussi.
Oui, des démêlés avec le fisc. On sent à quel point ça vous fait mal, Stéphane, qu'un Bourbon se retrouve encore dans de beaux draps. C'est hélas un peu plus que des démêlés avec le fisc. Vous allez voir, les dossiers sont nombreux. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes en parallèle, car Juan Carlos aurait détourné de l'argent pour rincer ses maîtresses, mais aussi un certain nombre de ses amis. La police espagnole étudie actuellement la liste. Ils en sont à la lettre B. Rassurez-nous, vous n'étiez pas un de ses amis, Stéphane.
Je ne le connaissais pas.
Non, pas de pipeau avec nous, Stéphane. Merci, écoute. Ils adorent notre émission. Oui. Si
non,
vous avez croqué, c'est le moment de le dire, Stéphane. Non, vraiment.
Non, mais...
Vous le connaissez
hélas,
bien
je le regrette.
Vous n'avez pas croqué.
Non, mais j'aurais pas été contre un peu d'argent
En tout cas, quelle déchéance, les amis, pour celui qui fut tout de même le garant de la transition démocratique de son pays, une figure de progressisme et d'intégrité. C'est un peu comme si on découvrait que Robert Badinter avait tapé dans la caisse pour s'offrir une Maserati et que plutôt que d'affronter la justice, il s'était taillé au Panama avec des putes. L'image est volontairement provocatrice, mais elle dit bien le choc qu'a suscité l'exil de Juan Carlos dans la société espagnole vis-à-vis de celui qui fut un grand roi. Les Espagnols sont vraiment passés de l'enchantement à la désillusion, un peu comme quand Stéphane rit puis s'étouffe juste après. Voilà, donc le résumé d'une saga dont le personnage principal a le train de vie d'une jet-setteuse monégasque, l'éthique financière de Patrick Balkany, la morale conjugale de Tiger Woods et le goitre d'Edouard Balladur, saga qui pourrait donc s'appeler Amour, goitre et beauté. Juan Carlos d'Espagne, dit le premier, est descendant direct de Louis XIV, s'il vous plaît, dont les parents Jean et Marie de Bourbon se sont exilés en Italie pour fuir la Seconde République espagnole en 1931. Il naît à Rome, mais à l'arrivée au pouvoir en 39 de Franco en Espagne, il se lasse des raviolis à la ricotta et leur préfère les patatas bravas. Il revient sur la terre d'origine de ses parents. Oui, c'est une chronique qui a été bossée musicalement. Hélas, son adolescence est marquée par un terrible drame. Autour de cette table, on a tous au moins une fois dans notre vie participé bourré à un paintball lors d'un EVG à Budapest.
J'aime bien la sensation de vomir.
Oui, c'était super, hein, de beaux souvenirs, sauf que l'avantage du paintball, c'est que les balles sont des billes de peinture qui font bobo mais ne tuent pas. Or, à l'époque où Juan Carlos est ado, le paintball n'existe pas encore. En revanche, pour ses 18 ans, ce bon Franco lui offre un pistolet. Alors, que s'est-il passé? Juan a-t-il pensé que c'était un pistolet à eau, un BB gun? Toujours est-il qu'il a joué avec et que, sans le faire exprès, il a buté son frère Alfonso.
À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Oh, la bouletasse et Echo, la bouletasse dans le texte. Bouleversado,
oh non,
on le comprend.
C'est horrible,
Juan Carlos pense un temps à se retirer dans un monastère pour passer le restant de ses jours à se flageller avec des rameaux d'olivier. Mais finalement, réflexion faite, il se marie en 62 avec la princesse Sophia, fille du roi Paul Ier de Grèce. Mariage arrangé, sans passion, dira-t-on. Quand Juan Carlos se douche, il ferme à clé. Sophia dort en pyjama, en pilou-pilou. Malgré tout, ils feront trois enfants. Elena, Cristina et Felipe. Magie du Viagra. Après la mort de Franco en 75, Juan Carlos est proclamé roi d'Espagne. Il va alors engager son pays vers la voie de la démocratie. Deux ans après sont organisées les premières élections libres depuis l'instauration de la dictature. Les Espagnols sont charmés, hein, du charisme, 1m90, athlétique, taillé en hache, pour reprendre les propos de Cristina Cordula, les yeux azur, séducteur invétéré selon le site Noblesse et Royauté, énorme show de la nouille selon Voici. La légende dit même, Stéphane, vous nous direz ce que vous en savez, qu'il y aurait eu tentative de plotage sur Lady Diana. Info ou intox, Stéphane?
Bah, il a dragué un peu par politesse,
ah,
mais il a.
Par politesse.
Il s'est jamais rien.
La drague par politesse. Jamais... Nouveau concept de Stéphane. Ne témoignez jamais à un procès MeToo. Voilà. Hein. Mais avec l'âge, notre roi du baisement lubrique commence à rouiller avec sa réputation. Après 9 opérations de la hanche, il se déplace désormais avec des béquilles. Des photos de lui chassant l'éléphant en Afrique choquent l'opinion espagnole. Pire, la jolie femme qui figure sur l'une de ces photos s'avère être sa maîtresse, Corina Larsen. Braconnier, infidèle et rouillé de la hanche, Juan Carlos entre dans la spirale de la luz, la spirala de la luz. J'ai commis une erreur et cela ne se reproduira pas, annonce Juan. Mais très vite, un autre scandale le rattrape. Sa fille Cristina est inculpée de fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Très vite, on remonte à lui. Juan détiendrait en fait un compte au Panama abritant 100 millions d'euros et un autre au Liechtenstein de 10 millions d'euros qui aurait été alimenté par des pots de vin durant ses années de règne. Oui, Stéphane, so shocking et muy choquante. Pas une connerie près, ce filou de Juan aurait touché de grosses commissions sur des marchés d'État, dont en particulier 80 millions d'euros pour la construction d'un train rapide en Arabie Saoudite. Le 2 juin 2014, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, annonce l'abdication de Juan Carlos après 39 ans de règne en faveur de son fils Felipe. Mais Juanito n'en a pas fini avec les emmerdes. En mars dernier, Felipe annonce qu'il renonce intégralement à l'héritage de son père et lui retire sa dotation annuelle. Plus d'argent de poche pour Popa. Pour Juanito, la copa est plena. Paniqué, acculé, Juan Carlos découpe alors ses coronets en tartare et fugue comme Kevina dans le sketch d'Elise Moon direction les Émirats Arabes Unis. Il loge depuis à l'hôtel Emirates Palace dans une suite à 11 000 dollars la nuit où il s'ennuie, mais alors grave. Il passe ses journées en peignoir à regarder TV5 Monde.
Il est très fan de Secrets d'Histoire.
Oui, c'est ce que je dis, il s'ennuie. Peu importe le luxe, si vous êtes seul, c'est déprimant. Juan Carlos n'est venu qu'avec 3 policiers pour sa sécurité et personne d'autre. Il se sent très seul et il n'a rien à faire, explique une source proche de la famille royale dans le journal El Espagnol. Visiblement, il aimerait rentrer à la maison. Le problème, c'est que les Espagnols ne veulent plus le voir. Et malheureusement, pas une semaine ne passe sans qu'une de ses ex-maîtresses ne balance un truc. Le 16 septembre dernier, l'une d'elles avoue à Paris Match avoir reçu de sa part 65 millions d'euros en 2012. Il aurait aussi versé 2 millions d'euros à Marta Gaya, une autre maîtresse qu'il fréquentait depuis 30 ans. Ah, tous ces gens qui parlent à la presse, parfois Juanito repense au pistolet de Franco. Alors, le roi déchu reviendra-t-il au bercail la queue entre les hanches pour affronter la justice? Vous le saurez dans un prochain épisode d'Amour, Goitre et Beauté. Mais après tout, qui suis-je pour juger un homme? À la lumière de ce récit, je préfère ne pas porter de jugement. Je vous laisse Stéphane, Olivier et David vous faire le vôtre.
Il m'a quand même déçu parce qu'il était un peu con.
C'est votre avis, David, il est cinglant, mais pouvait-on attendre autre chose de la part d'un Portugais vis-à-vis d'un Espagnol? Claro que no.
C'est vrai. Claro que no.
Merci beaucoup Mathieu. C'était 99% vrai.
Oui. Et ce qui était faux, vous l'avez deviné. Vous m'avez interrompu à ce moment-là. Vous m'avez dit qu'il aimait sa femme et puis il n'y avait pas de Viagra de toute façon à l'époque. Donc,
non,
les trois
absolument
enfants...
pas. Mais elle l'aime toujours. Elle, c'est vrai. C'est un problème. Ah oui, elle est toujours
terrible,
folle, amoureuse de son mari. Oui.
Vous avez l'air d'en savoir beaucoup. Il y a d'autres choses de fausses que j'ai dites avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'était à peu près vrai. Corina Larsen, fausse princesse de Leiningen, parce qu'elle couche avec des princes pour avoir un joli nom.
Ah.
Mais bon, ça enlève pas ce qu'elle est à la base. C'est-à-dire, bon.
C'est-à-dire une roturière, c'est ça que vous voulez dire?
Non, une
profiteuse.
Ah, une dame un peu, vous voyez ce que je veux dire, une professionnelle, quoi.
Ah, à ce point-là, d'accord, une professionnelle.
Ah, bah oui,
d'accord,
à ce niveau-là, 65 millions, c'est quoi?
65 millions, c'est joli, c'est joli.
Oui. Et Marta Gaya était gentille, la Marta Gaya, je l'aimais bien, elle.
Mais vous les connaissez, vous connaissez tous ces gens, en fait, personnellement.
Mais si vous voulez toucher les rois, il faut toucher les maîtresses, enfin, je veux dire.
Très bien.
Les approcher par les maîtresses.
Voilà. Merci Stéphane pour ce précision.
Voilà. Mais c'est dommage, voilà. Il donne l'image d'une bonne vache qui a fait du bon lait et qui, à la fin, donne un coup de pied dans le seau. Vous avez l'image?
C'est une très très belle image. Je ne sais pas si elle vous est venue spontanément ou si elle est dans un de vos livres, mais c'est magnifique en tout cas, l'image de la vache et du potelé.
Je vous remercie. Oui, oui.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue. C'est notre dernière demi-heure, le moment de nous tourner, Stéphane, vers David Castello-Lopez.
Absolument, pour les origines d'une invention ou d'un jeu, en l'occurrence le Monopoly, auquel on joue tous, évidemment, pour passer nos longues nuits d'hiver.
Tout à fait. Stéphane, parfois j'aimerais être avec vous pour vivre ces longues nuits d'hiver, ça va être vraiment follement amusant.
J'avais un petit peu oublié le Monopoly, ça faisait très très longtemps que j'y avais pas joué, et comme j'aime pas parler des choses que je connais pas bien, j'ai passé 3 heures.
Vous nous avez bien parlé du basket.
Oh le tac. Ce sera payé plus tard dans une autre émission parce que là j'ai pas de répartie.
Ça viendra.
J'ai passé 3 heures l'autre jour à faire une partie pour me souvenir un peu du truc. C'est quand même un jeu d'une grande violence. Hein.
C'est vrai, c'est terrible. Hein.
Si vous passez 1h30 à accumuler patiemment des richesses, vous êtes un peu fier, vous avez un peu l'impression que la rue de la paix elle est vraiment à vous.
Et là, paf, un coup de dé, et vous perdez la totalité de votre argent, de vos maisons, de vos hôtels, et c'est fini. Alors, bien sûr que c'est pour de rire, mais quand même, ça donne une idée de ce que c'est quand c'est pas pour de rire, et ça fait un peu mal. Et on se demande, hein, qui c'est qui a eu l'idée de ce jeu d'une grande cruauté? Pendant longtemps, l'histoire de la création du Monopoly, c'était la suivante. En gros, au début des années 30, aux États-Unis, c'est la dépression économique. Donc dans l'ensemble c'est nul, hein. C'est-à-dire il n'y a pas d'argent, pas d'avenir, pas de travail, tout ça. Et là, à Atlantic City, il y a un monsieur qui s'appelle Charles Darrow et qui souffre parce qu'il est au chômage. Mais bon, comme il est au chômage, il a du temps. Alors il se dit, est-ce que je pourrais peut-être pas inventer un truc? Et il invente le Monopoly. Il va voir le fabricant de jeux Parker Brothers qui commercialise le jeu. Et paf, carton, il devient millionnaire et le fabricant aussi. Et cette histoire, elle a pendant longtemps été imprimée dans les règles du jeu du Monopoly et insérée dans chaque boîte. Et c'était donc l'histoire officielle du Monopoly. Une partie de l'histoire est vraie. Charles Darrow, il est vraiment venu voir Parker, il leur a vraiment vendu le concept du jeu de Monopoly, et il est vraiment devenu millionnaire. Sauf que...
C'est l'essentiel.
Eh ben, c'est pas lui qui l'a inventé.
Non.
Voilà. Mais genre, pas du tout.
Incroyable.
Voilà. Et dans les
années... Il l'a piqué.
Il l'a piqué. Dans les années 30, le jeu circulait...
Un Français qui n'avait pas déposé.
Dans les années 30, le jeu, il circulait déjà dans plein de cercles universitaires, notamment de la côte Est des États-Unis. Il existait plusieurs versions. Et ce que Charles Darrow a fait, c'est qu'il a pris une de ces versions, il l'a un peu modifiée et il l'a vendue comme si c'était lui qui l'avait inventé. Mais alors, si c'est pas lui qui a inventé le Monopoly,
c'est qui, hein?
Une dame qui s'appelait Lizzie Maggie Phillips et qui était une militante féministe du début du XXe siècle aux États-Unis. Elle a sorti son jeu 30 ans avant Darrow, en 1904. Et ça s'appelait pas Monopoly, hein, ça s'appelait le jeu du propriétaire.
C'est bon, sexy.
Mais globalement, c'était le même principe. C'est-à-dire des propriétés qu'on achetait, la prime au monopole, les petites maisons, les billets, tout ça. Et le jeu de Maggie, il a été copié dans tous les sens. Sauf que Maggie, en tout et pour tout, elle a touché $500 pour son jeu. Voilà, c'est encore une de ces histoires.
Oh non, moi ça m'agace ces histoires, c'est triste.
Oui. Et non pas des millions comme Charles Darrow. Et il y a quand même quelque chose qui est quand même intéressant dans cette affaire. Je pense que beaucoup de gens, moi le premier en particulier quand j'étais enfant, on voit pas tout de suite que le Monopoly c'est un jeu qui est un peu idéologique quand même.
Bah oui.
En gros, c'est un jeu qui dit voilà ce qui se passe quand on laisse la bride sur le cou au capitalisme. Ça crée des monopoles et donc une petite partie des gens finit par avoir la totalité des richesses. Même si c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la vie. Mais l'important, c'est que cette idée de jeu comme manifeste, elle était vraiment au cœur de ce qu'elle voulait faire, Lizzie Maggie, avec son jeu du propriétaire. Et oui, parce qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, c'est un peu la première fois qu'il y a un petit nombre de familles capitalistes qui contrôlent vraiment une grande partie des richesses et des infrastructures du pays. C'est l'époque de Carnegie dans l'acier, de Vanderbilt dans les chemins de fer, de Rockefeller dans le pétrole, de JP Morgan dans la banque. Et Lizzie, elle trouvait que c'était pas bien que ces gens aient contrôlé autant de ressources.
Ouais, mais sauf que quand tu joues au Monopoly, ton but c'est d'accumuler.
Mais oui, précisément. Mais c'est pour ça. Son jeu s'était fait précisément pour essayer de démontrer ça. Et la grosse différence, et c'est là que ça rejoint ce que vous dites, Mathieu, la grosse différence avec le Monopoly d'aujourd'hui, c'est qu'on pouvait décider de jouer avec des règles anti-monopolistiques.
Ah.
Auquel cas, les loyers n'allaient pas à un joueur en particulier, mais ils s'étaient mis dans un pot commun. Ce qui était infiniment moins cruel, beaucoup plus sympa que les règles normales, mais aussi beaucoup moins drôle, hein.
Oui, c'est ça.
Et c'est pour ça. Oui,
mais
que,
ça donne moins envie de construire des maisons et des hôtels, alors.
Eh ben, exactement. Voilà. Et alors, pour répondre, vous m'avez posé la question tout à l'heure c'est quoi la rue la plus chère dans le Monopoly portugais? Oui. Entre temps, j'ai eu
je suis allé voir. Bosser.
Et c'est la Praça do Rossio. La place du Rossio à Lisbonne.
Du Rossio,
qui est une des principales places de Lisbonne.
En fait, c'est bruyant, hein. C'est bruyant.
C'est bruyant, mais c'est joli.
C'est très joli,
Olivier Pouls, vous savez s'il existe un Monopoly belge?
Bien sûr qu'il existe un Monopoly belge.
Ils ont créé une version un peu drôle.
Non, non, alors,
la place Brugman et l'avenue Molière.
La rue la plus chère, je crois, c'est la rue de la Loi à Bruxelles. Mais le Monopoly belge, c'est pas que des rues de Bruxelles, parce que je pense que la ville est peut-être pas assez riche en rues. C'est tout le pays. Donc vous avez des rues d'Anvers, de Courtrai, de Louvain, etc.
C'est la même chose au Portugal. Il y a des rues de Porto et
tout mélangé. Stéphane, comme je sens que vous en mourrez d'envie, s'il vous plaît, annoncez la suite de l'émission, à savoir la recette d'Olivier Pouls, mais avec l'accent belge.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines. Non, je fais l'accent.
C'est pas l'accent belge.
L'accent luxembourgeois.
Vous arrivez très bien à prendre l'accent belge, mais quand on vous le demande, vous vous bloquez.
Je bloque. Parce que je trouve ça ridicule, en fait, votre demande. Prendre des accents.
La demande est ridicule, ce n'est pas moi qui ferai l'accent en belge sur cette antenne.
En tout cas, merci, David Castello-Lopez. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europain.fr. Mais là, maintenant, Olivier Pouls arrive et il s'est pris pour Louis XVI, arrêté à Saint-Denis, avec des pieds de porc. Ils étaient quoi? Ils n'étaient pas nés.
Ils n'étaient pas nés.
Pour ceux qui n'ont pas entendu le début de l'émission, ils n'ont rien compris, mais ça leur donne envie de rester probablement. C'est mystérieux.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Un œil qui voit, un nez qui flaire, un estomac qui gargouille. Voici Olivier Pouls, vous allez apprendre à le connaître. Olivier, aujourd'hui, on reparle encore de cette fuite à Varennes de Louis XVI qui a fait l'objet de notre première partie. Stéphane le disait, peut-être qu'il aurait perdu un peu de temps dans sa fuite à cause d'une gourmandise.
Mais Dieu sait que je le comprends, ce fameux Louis XVI, et que ça me l'a rendu tellement attachant et sympathique. Ben oui, tout à l'heure, Stéphane, vous avez raconté cette fameuse évasion rocambolesque qui a commencé le 21 juin dans la nuit, et vous avez évoqué rapidement ce petit moment au matin, probablement entre 8h et 9h, où il arrive à Saint-Ménéhould, donc ce petit village de la Marne, et où la légende, dit-on à ce moment-là, prétend qu'il aurait ordonné que son carrosse royal s'arrête.
Est-ce que c'est pas les gens de la ville qui auraient inventé ça pour faire parler des pieds de porc?
En tout cas, celui qui a propagé la rumeur, c'est l'avocat révolutionnaire Camille Desmoulins, qui a beaucoup gossé là-dessus en disant le roi aux pieds de porc. Parce qu'en fait, le roi aurait exigé qu'on s'arrête pour qu'il puisse une dernière fois goûter à ces fameux pieds de porc à la Saint-Ménoult, parce qu'il adorait cette recette. C'est une recette qui était beaucoup plus ancienne, hein, qui date du 15e siècle, les années 1430. Recette inventée une fois encore par hasard. On dit un petit marmiton qui aurait oublié des pieds de porc et qui aurait cuit toute une nuit dans un bouillon, et on se serait rendu compte le lendemain que tout était devenu friable, moelleux, même les os, on pouvait les manger parce que
dans les pieds de porc, vous mangez les os.
Ah oui, parce que c'est tellement cuit finalement que les os, vous les sentez plus.
On les suçote plutôt qu'on les suçote.
Mais les os les plus petits, que le cartilage en tout cas, on peut le manger.
C'est vraiment des tarés dans cette émission.
Je suis pas persuadé de la véracité, malheureusement, de cette histoire pour plusieurs raisons. La première, c'est que il est à peu près acquis que, et Stéphane, j'espère, ne me démentira pas, qu'il est arrivé très tôt le matin à Saint-Ménéhould.
Oui.
Probablement 8h.
Donc c'était pas l'heure de manger des pieds de cochon.
Non, il aurait demandé des croissants ou des pains au chocolat, on aurait pu le comprendre. Mais enfin, manger des pieds de porc à 8-9h le matin, même quand on a fait du carrosse toute la nuit, c'est pas évident. Puis surtout, c'est pas évident que le cuisinier ait laissé ça sous la main quand même.
Ben oui, bien sûr.
Il faut les préparer. Donc c'est probablement légendaire. Ce qui ne l'est pas, c'est que c'est bien là qu'il a été reconnu par un garçon de poste. Il s'est effectivement arrêté dans ce village, probablement plutôt pour changer les chevaux avant de repartir, mais il n'a pas eu le temps de les manger. Quoi qu'il en soit, cette recette est quand même un des grands classiques de la région. Elle est quand même délicieuse et elle mérite quand même qu'on s'arrête. Donc je vais vous la donner.
Alors dites-nous comment on fait les pieds de porc.
Eh ben c'est très simple en fait. Vous allez acheter des pieds de porc. S'ils ne coûtent vraiment pas cher chez votre boucher, il sera très content de s'en débarrasser, de vous les vendre. Vous allez les faire cuire dans un bouillon. Alors un bouillon avec carottes, oignons, un petit peu de vin blanc, un bouquet garni, un petit coup de girofle. Et il faut les cuire très longtemps. Ça, c'est le secret, il faut les cuire au moins 4 heures à petit bouillon, de manière à ce que la viande soit vraiment la plus fondante possible.
À petit bouillon, ça veut dire à feu doux ?
Oui, à feu très doux. Voilà, plop, 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 comme on dit, hein, tout simplement. Après, vous allez...
Vraiment dans la précision gastronomique des termes.
Oui, c'est pas plop, plop, plop.
C'est plop, plop, plop.
Exactement, regardez bien le timing. Et juste, petite précaution, il faut les ficeler avant, parce que sinon, ils vont se déliter. Vous allez
comme
avoir
Marie Médicis quand on l'a fait descendre.
Bien ficelé. Ensuite, vous allez les récupérer et vous allez les paner. Panure classique à l'anglaise, hein, donc un petit peu de farine, de l'œuf battu et puis de la chapelure. Et après, on termine en les faisant poêler pour faire croustiller toute cette panure. C'est extrêmement simple, c'est délicieux. Vous servez ça
et on les sert avec quoi, Olivier ?
Ah ben, une petite moutarde, une petite salade, par exemple, ça fait une délicieuse entrée. Ou un plat, si on veut rajouter quelques pommes de terre, par exemple, pourquoi pas ?
Oui, c'est chargé comme entrée. Je sens David un peu choqué quand même par ce plat.
L'entrée, c'est-à-dire si on commence par un pied de porc, je sais pas par quoi on finit. Quoi. C'est ça.
Après, on fait l'oreille de porc.
Oui, exactement.
C'est aussi un plat délicieux. Un spécial cochon.
Oui.
Et Stéphane, vous faites comme ça par politesse ou vraiment ça vous excite?
C'est sûr, par politesse, oui. Ça fait partie de ces plats où on trouve ça délicieux tant qu'on ne sait pas ce que c'est.
Vous êtes injuste. Je vous dis, les oreilles de cochon, c'était très bon. Enfin, préparé, on les a goûtés.
Oui, mais en même temps, l'idée est peu ragoûtant. C'est bizarre.
C'est vrai.
En tout cas, merci Olivier Pouls. Et je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Même les plus bizarres. Je lui laisse toujours le mot de la fin, de même que je lui laisserai toujours ma place dans le bus. Question d'âge. Stéphane Bern vous raconte l'origine d'une expression aujourd'hui, Stéphane.
Avoir la science infuse.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Plus je fréquente Stéphane Bern et plus je me dis qu'au fond, l'amour des mots, c'est comme la syphilis.
C'est peut-être moi qui l'ai refilé à tout le monde.
C'est bien possible. C'est vrai qu'avec Olivier David, on est de plus en plus passionnés par la langue française. Grâce à vous, Stéphane, et votre rubrique célèbre, le mot de la fin, l'histoire d'une expression.
Alors, bien loin de vous ressembler, Mathieu, une personne qui a la science infuse est celle qui croit tout savoir, dotée d'un amour de soi assez conséquent, qui prend tout le monde de haut, estimant tout savoir mieux que tout le monde. Ça peut vous ressembler un peu, même si à votre contact je me rends compte que c'est pas tout à fait ça.
Je sais pas ce que vous avez tenté de m'insulter puis ensuite de ravaler l'insulte.
Oui,
pour essayer,
oui, parce que en fait vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Je ne veux pas vous blesser. Au fond j'avais préparé un coup et puis au dernier moment j'ai pas osé.
Dites-nous plutôt l'expression la science infuse, Stéphane, au lieu de vous empêtrer.
Alors, pour avoir la science infuse, on imagine un apprentissage du savoir qui met du temps à venir, qui arrive petit à petit après de nombreux efforts intellectuels, qui infuse lentement, un peu comme le thé. Eh bien, pas du tout. Ah bon. En théologie, la science infuse, c'est la connaissance qu'Adam a reçue de Dieu sans avoir fait le moindre effort. L'infusion pour le thé et la science infuse trouvent d'ailleurs leurs racines dans le même mot latin, fundere, qui signifie verser. Aux États-Unis, comme chez nous, on dit un monsieur je sais tout, a know it all. En Équateur, on utilise la même expression, ser un sabelo todo. Quant au Québec, on parle d'un tijo connaissant. Ne m'en demandez pas plus, je sais pas pourquoi. Terminons sur ce bon mot de Pierre Dac à propos de ceux qui ont la science infuse. Le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui.
Et en Belgique, vous savez ce qu'on dit?
Ah ben non, vous allez nous
le
dire.
Non, mais on va le savoir.
On dit un dickeneck. Un dickeneck, c'est un gros...
Un dickeneck, il y avait un très bon film.
Exactement.
Un très bon film, dickeneck, oui.
Ouais. Ça fait partie de votre DVD tech, dickeneck, Stéphane?
Ah oui, j'ai beaucoup aimé.
Ah,
oui.
Je ne savais pas que vous appréciez cet humour-là. Ah ben, on peut
regarder
quelques films ensemble, alors.
Oui, volontiers, volontiers.
Merci, Stéphane. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Nous avons évoqué aujourd'hui un sujet qui ne doit pas être tabou, car il y a, Stéphane le sait, des fuites moins graves que d'autres.
Vous pensez avoir tout essayé contre les problèmes de fuite urinaire masculine? Composé d'un étui peignant et d'une poche, discrète et efficace, plus besoin de vous changer.
Plus besoin. Non, ça c'est pas grave, Stéphane. Un bon étui peignant, c'est réglé. Mais il y a plus grave.
Absolument.
Grands monarques, de Louis XVI à Juan Carlos. Quel fuyard de l'histoire vous a le plus ému, Stéphane?
Non, alors, je vais vous dire, aujourd'hui, j'en ai appris, je ne pensais pas que Louis XVI voulait répandre la révolution et créer des républiques un peu partout en Europe. Alors là, c'est une vision de Louis XVI
étonnant,
que je ne maîtrisais pas du tout. Je ne pensais pas du tout qu'il n'aimait pas sa femme. Je pensais qu'il avait vraiment un phimosis qui lui empêchait d'avoir des enfants. Pas du tout qu'il n'avait pas envie, que c'est lui qui mettait un frein à sa zigounette. Enfin, j'ai appris des choses grâce à Aurore Chéri, la bien nommée. Et voilà.
Stéphane, je sens que vous en remettrez pas de cette histoire de phimosis qui n'existe pas, parce que c'est vraiment la blague que vous racontez dans tous les dîners. Hein, c'est vraiment
non,
le fait historique
dans
que vous aimez.
Si,
dans les dîners.
C'est vraiment les dîners où on nous sert des pieds de cochon.
Entre la poire et le fromage, vous aimez la glisser, cette anecdote-là. Il va falloir la réviser. En tout cas, on se retrouve demain avec au sommaire, Stéphane.
Demain, Mathieu, c'est un scandale.
Mais pourquoi?
Ah ben, c'est le thème de l'émission. Hein. Ils ont fait scandale. Gustave Courbet et son origine du monde. Ah. Boris Vian qui a craché sur nos tombes. Et Olivero Toscani, célèbre pour ses photos provoques pour les pubs de la marque Benetton.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.